Audiolib présente L'école des beaux jours de Christian Signol, lu par Thierry Lopez, à Jackie, Evelyne, Michel, Jean-Pierre, qui l'ont tant aimé. Quelle est la première partie de la politique ? L'éducation. La seconde ? L'éducation. Et la troisième ? L'éducation. Jules Michelet. Ô vieille pluie, souvenez-vous d'Augustin Maulne, qui pénétrait en coup de vent et comme un prince dans l'école. René Guicadou. Première année. Chapitre 1. Ce premier jour où je suis monté dans les nuages à la découverte de ma future école. Si l'on m'avait dit que je passerais en son sein plusieurs années, aurais-je fait demi-tour ? Je ne sais pas. Je m'interrogeais sur ce qui me valait une telle affectation, moi qui enseignais dans une petite bourgade de la plaine, au cœur des terres douces, des prairies baignées de rivières aux murmures paisibles. Peut-être la devais-je à une suggestion de l'inspecteur à l'issue d'une de ces journées d'animation pédagogique qui sont pour la grande éducation nationale le moyen de régner sur celles et ceux qui sont censés la célébrer jusque dans ses mystères. Je rejoignais donc Saint-Julien, ce village improbable planté là-haut, sur un plateau perdu, où une lettre officielle m'invitait à me rendre, afin d'y instruire les enfants des hameaux gités dans les bois sombres où la route, ce jour-là, menaçait de se perdre. Elle grimpait entre des châtaigniers séculaires, des chênes opulents, des hêtres magnifiques et des sapinières d'un vert profond, d'une froideur extrême, qui retenaient les nuages de leurs griffes acérées. À mi-pente, je faillis faire demi-tour. Quelle voix m'avait fait douter ? Peut-être celle de mes aïeux, là-haut, prisonniers des cimetières abandonnés. Avant que les survivants ne descendent de ces nuages où notre famille vivait depuis des siècles afin de s'installer dans une ville de la vallée, bien modeste, au demeurant, pour une existence enfin délivrée des travaux harassants de la terre et de la forêt. La création d'un artisanat avait permis à mes grands-parents et à mes parents de bénéficier du progrès qui avait jailli des Trente Glorieuses, et pour moi de mener à bien de brèves études auxquelles ni mon père ni ma mère n'avaient eu droit. Après une licence de lettres et 2 ans d'IUFM, j'étais donc devenu professeur des écoles à un poste provisoire dans un bourg de la plaine. Tandis que Justine, ma compagne, exerçait à proximité. Tout allait bien, en somme. Jusqu'à ce jour, où, insulté par un gamin, je n'avais pu retenir ma main qui, au demeurant, l'avait simplement effleurée. Ce crime perpétré à l'encontre du fils d'un potentat local ne pouvait rester impuni, mais j'avais décidé de l'ignorer. 8 jours plus tard, j'avais été invité par l'inspecteur à faire des excuses, non seulement aux parents, mais aussi à l'enfant. J'avais refusé, et je pensais en toute bonne foi que l'incident resterait là. Mais pouvait-on reculer devant un petit professeur des écoles, d'ailleurs pas très bien noté, à cause de son indocilité face aux directives élaborées par les brillants esprits qui hantent les ministères ? L'inspecteur m'avait informé que mon poste allait être rendu à son titulaire de retour de congé maladie et qu'il serait judicieux, peut-être, pour moi, de prendre un peu de distance avec les puissances locales et donc d'explorer ailleurs les différents attraits de ma profession. Cette suggestion m'avait paru raisonnable, et c'est ainsi que ma liste de vœux avait imprudemment laissé apparaître le poste vacant du village de Saint-Julien. Je n'avais pas bien mesuré les risques, malgré les réserves de Justine, ma compagne, qui exerçait dans la ville voisine comme infirmière à l'hôpital et ne se voyait pas vivre trop loin de son lieu de travail. J'avais mésestimé le fait que je n'étais pas très bien noté à cause de mon incapacité à remplir les innombrables formulaires de statistiques ou à les renvoyer dans les délais. Plus sûrement, à ne pas scrupuleusement respecter les consignes de sécurité de plus en plus contraignantes.